إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بعون الله تبارك وتعالى وتعيينه وتأييده دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حفظه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله القصير حفظه الله. وقد وقفنا فيما مضى في باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم، فمن يقول لنا ما هي الأمور التي ذكرناها أنها توجب الغسل؟ Qui peut nous rappeler les choses que l'on a évoquées jusqu'à maintenant, annulant ou plutôt nécessitant un barakallahu fik al-ghusl? Et je parle de ceux que le cheikh Saadi a cité. طيب يلا يا اخوان مالك
janaba
ahsant al-janaba. Donc la première chose qui a été citée par le cheikh nécessitant al-ghusl al-janaba. Et al-janaba kayfa tahsul? Comment elle se produit le janaba? Bi ay shay? Par quoi elle se produit le janaba?
Par le mani.
Par le mani, c'est-à-dire, plus précisément, le fait de toucher le mani?
Non, un G.
Voilà. Inzal, tu dis inzal el mani. Inzal el mani. D'accord? Ou khuruj el mani. L'expulsion de l'mani, du sperme. D'ailleurs, c'est tout. Le janaba, il se produit que comme ça. Il n'y a pas une autre cause. Non. Iltiqa al-khitanayn. Iltiqa al-khitanayn. Donc lorsque les deux circoncis se rencontrent. D'accord? Donc le janaba se produit par ces deux choses-là. Inzal al-mani ou khuruj al-mani, que ce soit à travers le coït ou pas, d'accord, du moment qu'il y a eu éjaculation, cela nécessite al-ghusl. Et également, deuxième chose qui engendre al-janaba, la rencontre entre les deux sexes. Et on a dit donc à quel moment cela se produisait exactement au niveau de la pénétration, par rapport à la pénétration. Vous voyez? Et ce, même s'il n'y a pas d'éjaculation. D'accord? Ensuite, ikhwa. L'apostasie?
L'entrée.
Non.
L'entrée.
T'es resté au cours de l'wudu, toi. Ridda, ça c'est dans le wudu. Donc ridda, vu que ça annule les œuvres de la personne, il faut qu'elle fasse le wudu. D'accord? Et pas le rousse. Le rousse, non. Non. Hein? Khuruj ad-dam. Non. Ah, voilà. Pour préciser, parce que khuruj ad-dam. Ah, oui. Donc khuruj ad-dam al-hayd wa an-nifas. À la boude. Donc la sortie du sang des menstrues ou des logis. Al-maut, ahsant. Exception pour shahid. Exception pour le martyr qui est mort sur le champ de guerre. D'accord? Donc ça fait combien? Ça fait 3. Ouais, ça fait 3. On avait cité une quatrième. Il a dit le frère, la mort. La mort excepté le martyr. Voilà. Islam et le kafir. L'islam du kafir. D'accord? Non, l'apostasie, c'est quand tu sors de l'islam, il croit. Attention, là. L'apostasie, c'est quand tu sors de l'islam. Là, c'est quand tu entres en islam.
Il apostasie, il faut revenir dans la religion.
Ah, oui. Ah, après, je ne peux pas lire dans tes pensées. Ah, oui. Si tu te fais des trucs, des raisonnements, Yanni, par kinésithérapie, je ne pourrais pas. Ah oui, billah. Donc, le fait d'entrer en islam, ça fait 4. Non. Donc, le shirk, il en a cité 4 pour l'instant. Et on a vu que Ar-Rajih, c'est le premier, Naam, le deuxième aussi, le troisième aussi, mais Islam ou le Kafir, on a vu que Ar-Rajih, Ar-Rajih Mada, La Yujib, Al-Rus. La Yujib, Al-Rus. Naam, عنده بعض العلماء مستحب. الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لما أسلم ما اسمه كم يسأل celui le sahabi à qui il a ordonné de se laver lorsqu'il a embrassé l'islam, vous rappelez comment il s'appelle? Hein? On l'a cité la semaine dernière, comment il s'appelle? Personne l'a écrit? Comment? Qais ibn. Non, là c'est l'autre, ça c'est Thumam ibn Uthal. La Fatih. Il s'appelle Qais ibn Asim. Qais ibn Asim, parce que Thumam, lui, le prophète, il lui a rien dit, Thumam. C'est lui qui est parti tout seul faire le rousse, il l'a fait même avant le shahada. Alors que logiquement, si tu dis que c'est mustahab, tu le fais après la shahada, pas avant. Lui l'a fait avant. Donc c'était un ijtihad, carrément de sa part. 100%. Alors que Qais ibn Asim, c'est le prophète en personne qui lui a ordonné de faire le ghusl. Mais pourquoi cette preuve, elle n'est pas acceptable? On l'avait dit.
Parce qu'il n'a pas ordonné à tous les compagnons.
Oui, ça c'est le deuxième argument. Non. Mais je te parle de la preuve en question, celle-là. Parce que la personne peut te dire, ouais, mais il a ordonné à Qais. Hein?
Par rapport à son
kufr.
Kufr.
Eh bien, tous les autres sont rentrés par rapport à leur kufr aussi. Enfin, je veux dire, ça sortit du kufr pour aller vers l'islam. C'est quoi la différence entre lui et les autres? C'est un problème de... Hein? Vous vous rappelez pas? Amarahu an yaghtasil lamma aslama. Wa qad bayyana anna dhalika la yajib. لماذا؟ باقتران السدر بالماء.
باقتران سدر بالماء مما يدل على أنه للتنظيف. Parce que lorsqu'il lui a dit de faire le rose, il lui a dit quoi? Lave-toi avec de l'eau et du jujubier. Depuis quand on fait le rousle avec du jujubier, quoi? Est-ce que vous, quand vous faites le rousle, vous utilisez le jujubier? Là. Donc là, ça prouve qu'en fait, son rousle, c'était pour le nettoyer. Les tanvé fakat, pas par rapport à l'islam. C'est pour le nettoyer. Physiquement, yani, matériellement. D'accord? Wa al-dalil al-thani, adam ijtihar, et le deuxième argument, c'est que c'est pas connu chez les sahaba qu'ils aient fait le ghusl quand ils ont embrassé l'islam. Ni Abi Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni n'importe qui. Donc les seules personnes, yani, ou les seuls compagnons qui l'ont fait, c'est Qais ibn Asim, et on a vu donc que c'est pas recevable, et Thumama ibn Uthal. Et on a vu que c'était un ijtihad de sa part. Et en plus, il a fait avant même d'annoncer son islam. D'accord ? Alhamdulillah.
ثم يقول المؤلف قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية أي إذا اغتسلن إذا اختسن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. نعم. هنا ذكر سببا آخر عنده يوجب الغسل ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. نعم. وقال الشيخ سليمان وذلك في حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وتقدم في باب نواقض الوضوء هذا الحديث وذكرنا ان الصحيح انه موقوف على ابي هريره وذهب بعض العلماء الى انه لو صح مرفوعا فانه منسوخ والغسل من تغسيل الميت مستحب عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم لا غسل علي لا غسل علي ولا وضوء علي لعدم صحة الحديث ليس هناك حديث صحيح مرفوع ولما رواه عبد الله ابن أبي بكر أن أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس زوج من؟ أبي بكر غسلت أبا بكر حين توفي رضي الله عنه ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا أي الصحابة لا أخرجه مالك الحديث واضح. Donc, par la suite, après avoir cité ces quatre choses exigeant al-ghusl, il cite les preuves sur lesquelles il s'appuie. Premièrement, le verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, il dit « Et si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. » Donc ça, c'est la preuve que al-janaba exige al-ghusl. Taïeb. Le deuxième verset de surat al-Baqara, dans le sens rapproché, il dit « Et ne vous approchez pas d'elle, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elle, hatta yatahurn, jusqu'à ce que leur menstrue se soit terminée. Puis, lorsqu'elles se sont purifiées, eh bien, faites le coït avec elles, comme Allah vous l'a prescrit. » D'accord ? Donc ce verset, c'est la preuve que al-hayd nécessite al-ghusl. C'est bon pour l'épreuve. Taïb. Puis il dit, et là il va citer donc une cinquième cause pour lui qui exige le rousse. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire le ghusl après avoir lavé le mort. Après avoir lavé le mort. Donc, sans même citer le hadith. Il cite juste cette phrase-là. Et le hadith, il le dit, le Cheikh Sulaiman, c'est lequel ? Celui de Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit,
ok,
yani, entendez bien le mot, aurait dit, et ça, yani, celui justement qui cite un hadith, qu'il sait qu'il est faible, il ne dit pas le prophète a dit, lui il le sait qu'il est faible, d'accord ? Mais tu vas le citer pour dire aux gens qu'il est faible, ben, tu vas dire que le prophète aurait dit, et tu précises que le hadith il est faible, d'accord ? Et cela est fait par les ulama. Lorsque le savant il dit, ou l'imam al-Bukhari, rahimahullah wa ta'ala, il dit Rouya, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas Rawa, telle personne a rapporté. Il dit Rouya, il dit on a rapporté. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Lorsqu'il dit on a rapporté, il se peut que là, en fait, pour lui, le hadith il n'est pas authentique. C'est pour ça qu'il dit Rouya. D'accord ? Il ne dit pas « haddathana ». Il va dire « ruya » ou « qila » ou « hakada ». Donc là, le prophète aurait dit « celui qui a lavé un mort, qu'il se lave, qu'il fasse le rousse. Et celui qui l'a porté, qu'il fasse el wudu. » Donc le hadith, on l'a déjà vu dans « bab el wudu ». Mais ce qui est correct et juste, c'est que le hadith, il est mawquf. C'est-à-dire qu'il s'arrête à Abu Hurayra. C'est-à-dire que c'est lui qui a dit cette phrase-là, et pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ulama, ils ont dit que si il est marfou', c'est-à-dire que s'il remonte bien au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est abrogé. Il est abrogé. Il a été abrogé par d'autres hadiths. Donc, elle roussle par rapport au lavage du mort est recommandée pour la majorité des ulama. Pour la majorité des ulama, il n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé. Et d'autres savants disent qu'il n'y a aucune preuve, aucun hadith authentique à ce sujet. Et que donc, celui qui a lavé la mort, il n'a pas à faire le roussle. Il n'a pas à faire elle roussle. Non. Il y a également un hadith rapporté par Malik, rahimahullah, selon Abdullah ibn Abi Bakr, donc le fils d'Abu Bakr, qui dit que Asma bint Umays, qui est donc la femme d'Abu Bakr, a lavé Abu Bakrin, donc son époux, lorsqu'il est décédé. Puis, elle est sortie et a demandé à ceux qui étaient donc présents parmi les muhajirines, et a dit, je jeûne et aujourd'hui est un jour de grand froid. Est-ce que je dois faire el roussou? Ils ont répondu non. Donc, c'est un des hadiths qui prouve également que celui qui a lavé la mort, il n'a pas à faire al-ghusl wallahu a'lam. Wa hadha huwa ar-rajih. Donc là, ça fait 5 choses. Et parmi ces 5, pour l'instant, il n'y a que 3 qui sont correctes. Wallahu a'lam. Wa amara man aslama an yaghtasil. Wa huma huna qad كرر شيخ يعني إسلام الكافر يقول وأمر من أسلم يغتسل وقد رأينا ذلك وأما نعم يقول الشيخ تقدم بيانه في صفحة السابقة وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة نعم donc après le شيخ il va يعني reciter une deuxième fois le fait que la personne qui entre en islam fait le rousl, mais on a déjà évoqué cela et on a dit que cela n'est pas l'avis le plus juste. Wallahu a'lam. Donc, puis là, il va commencer à citer le cheikh, rahimahullah, l'auteur, la façon de faire le rousl. D'accord ? La description du rousl du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il faisait le rousl ? Yaqul, Cheikh Suleyman, hafidhahullah. هذه الصفة جاءت في حديث عائشة في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله يعني يصب الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثلاث حفنات هذه حفنة حفنة يعني مد من الماء ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجه البخاري ومسلم فهذا الحديث فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل نعم طيب Donc il dit le cheikh Suleyman, hafidhahullah ta'ala, il dit que la description de ghusl de Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le hadith de Aisha, que l'on trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le ghusl de al-Janaba, par rapport à al-Janaba, il commençait par laver ses mains. Puis, il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait dans sa main gauche et lavait quoi ? Ses parties. Laver ses parties. Vous voyez ? Donc là, vous savez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas le système d'eau comme aujourd'hui. Hein, les robinets, les tuyaux, etc., etc. Comment ils faisaient avant, ils avaient une bassine. Une bassine, hein, avec de l'eau, ils puisaient de l'eau dans la bassine. Comme on fait aujourd'hui, peut-être avec, pour le wudu, eh bien, ils faisaient pareil, mais pour le ghusl aussi. D'accord ? Pour le ghusl aussi, mais aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, avec la baignoire, la douche, c'est très rare de voir des gens qui font ça. Wallahu a'lam. Au bled, oui, en France, hein, moi, ouais. je parle de nous, qui avons grandi ici. Donc, après avoir lavé les parties, il faisait el wudu. Donc, le même wudu que pour la prière, connu.
Les parties, c'est quoi ? Devant et derrière ?
Je vais, non, après on va détailler un peu plus. Non, bonne question, bien sûr. Donc, après avoir fait el wudu, il a pris de l'eau, donc il a pris encore de l'eau avec ses mains, et il a introduit ses doigts jusqu'à la racine de ses cheveux. Jusqu'à la racine de ses cheveux. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'il a, constaté, il a été sûr que l'eau a bien atteint la racine de ses cheveux. Hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Donc, une hafna, c'est les deux mains remplies d'eau. Ça, c'est une hafna. D'accord ? Une hafna, c'est un mout où les deux mains remplies d'eau. Donc, il a pris trois hafanat, comme ça. Hein ? En Algérie aussi ? Hafanat. Et il les a versés, donc, ces trois hafanat sur la tête. Taïeb. Donc ceux qui n'écrivent pas, j'espère qu'ils ont une mémoire d'éléphant, mashallah. Ou alors qu'ils maîtrisent le ghusl à la perfection avec les sunan et tout. Hein? Allahumma barik. Hein? Sinon j'efface l'audio aussi.
Et ouais, c'est trop simple.
ثم أفاض على سائر جسده. Puis, après avoir fait ça, il a versé de l'eau sur le reste de son corps. Après la tête, le reste du corps. Puis, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé ses deux pieds. Il a lavé ses deux pieds. Donc ça, on a la, ici, on a la description en détail du rusl du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith d'Aïcha, pour ceux qui veulent revenir, dans Sahih al-Bukhari, numéro 245, et Muslim 316. Est-ce que c'est bon, Ikhwan? Yaqul le Cheikh Sa'di. فإنه يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. يقول الشيخ هنا وضوءا كاملا أي إلى القدمين حتى القدمين ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا إن يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. فذكر هنا غسلين للرجلين في الوضوء وفي نهاية الغسل ويقول بمحل آخر أي بمكان آخر. يقول الشيخ سليمان غسل الرجلين بمحل آخر جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها. نعم قالت يعني من أمهات المؤمنين قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجناب فغسل فرجه وما أصابه وما أصابه من المني ونحو ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض هذا تردد منها. قالت مسح بيده هكذا على الحائط أو الأرض. ثم توضأ وضوء للصلاة وضوءه للصلاة غير رجليه. هنا ذكرت أنه لم يغسل رجليه في الوضوء. ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى أي تباعد تنحى تباعد فغسل قدميه أخرجه البخاري ومسلم. وهذان الحديثان صحيحان الحمد لله. دونك il dit le Cheikh Saadi, rahimahullah, donc lui il va pas citer le hadith, mais il va décrire de sa, à sa manière le ghusl de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il lavait ses parties en premier, d'accord? Puis, il a fait les ablutions de manière totale, c'est-à-dire qu'il a fait les ablutions en commençant par yani le visage, les bras, etc. Il a fini par les pieds. Puis, il a versé de l'eau sur sa tête trois fois. Hafanat, al-thalaf. Taïeb, donc il a versé de l'eau sur sa tête. Jusqu'à ce que, jusqu'à la racine des cheveux. C'est pas juste la surface de la tête, mais il faut que l'eau pénètre jusqu'à la racine des cheveux. Puis, il a donc douché ou versé de l'eau sur le reste du corps. Puis, à la fin, il a lavé, donc pour le Cheikh Sa'di, il a lavé encore une fois ses pieds, mais à un autre endroit. Hmm? Après, ouais, après. C'est dans. C'est Cheikh Suleiman qui dit ça. Donc, Cheikh Sa'di, il dit, et après, à la fin, il a fini par le lavage des pieds, mais à un autre endroit. Il n'est pas resté au même endroit. D'accord ? Et encore une fois, je rappelle qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le système d'évacuation. D'accord ? Donc, il se peut que l'endroit dans lequel il faisait El Rousl, il y avait un minimum l'eau qui est tombée de son corps, donc l'eau qui est moustamel, a été utilisée. Peut-être même du sperme ou autre parmi ces liquides. D'accord ? Ou même de la terre. Hein, à l'époque, c'était... Voilà. D'ailleurs. Donc ça, c'est la description qu'il a donnée Cheikh Saadi. Il dit, Cheikh Suleiman, Hafidhahullah Ta'ala, donc, le fait de laver les pieds dans un autre endroit, cela a été rapporté dans le hadith de Maymouna, donc l'une des épouses de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qui a dit, je cachais le prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, pendant qu'il faisait le ghusl. Je le cachais. De l'janaba. Elle a dit, il a lavé ses parties, wama asaba, et tout ce qui était sur lui, comme liquide, que ce soit de la terre, du sperme ou autre. Hein. Puis il a essuyé avec sa main, ou plutôt il a essuyé sa main sur le mur ou par terre. Donc là, il y a un doute de la part de Maymouna qui dit, il a essuyé sa main sur le mur ou par terre. Elle a un doute. D'accord ? Donc, après avoir essuyé ses parties et enlevé peut-être ce qu'il y avait sur son corps, il a frotté en fait sa main sur le mur ou par terre pour enlever ce qui est resté et ce qui est collé dans sa main ou demeuré sur sa main. Donc, encore une fois, nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on le robinet, on se lave les mains et il y a tout qui part, ça y est. Alors qu'avant, il était sûrement peut-être dans une bassine ou un endroit où il n'y avait aucune évacuation. Donc il ne pouvait pas non plus plonger sa main dans la bassine alors que sur lui, il avait peut-être ses substances. Donc il a été obligé de frotter ses mains contre le mur pour enlever ces choses. D'accord ? Donc on voit ici qu'il y avait un besoin qu'il fasse ça. Que nous, Yanné, on n'est pas forcément confronté à ce même besoin. Aywa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Après avoir nettoyé ses mains, frotté ses mains, il a fait le wudu. Il a fait el wudu connu. Mais il dit, elle dit ici Maymouna, contrairement au hadith précédent, elle dit, mais il n'a pas lavé ses pieds. Dans ce hadith, elle dit, il n'a pas lavé ses pieds. Donc, après avoir fait le wudu, en ayant terminé, du coup, par la tête, il a versé de l'eau sur le reste du corps, puis il s'est éloigné. Tanaha, il s'est éloigné de l'endroit où il était. Il n'est pas resté à l'endroit même. Il s'est un peu éloigné. Tanaha. Et là, il a lavé ses pieds. Et à la fin, il a lavé ses pieds. Donc le hadith, on le retrouve dans le Bukhari et Muslim aussi. D'accord ? Hadith de Maymouna. Donc les deux, ils sont authentiques. Est-ce que c'est clair, les frères ? Hadith Maymouna, l'amir sa chara. Après le wudu, il s'est lavé les pieds. Après le wudu, il s'est lavé les pieds. تروية شعر الرأس نعم قالت ثم أفاض على جسد الماء ويدخل في ذلك الرأس الحمد لله نعم إذن هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى شيخ سعدي في بيان كيفية الغسل في بيان كيفية الغسل وهو قسمان وهو قسمان الأول الكامل الغسل الكامل والثاني الغسل المجزي كما قال العلماء donc ici pour résumer un peu le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala commence à donc nous décrire le ghusl de Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faut savoir que le ghusl peut se faire de deux façons. La première, celle que l'on dit, que l'on appelle Al-Rusl Al-Kamil. Le Rusl complet. Ou parfait. Et le deuxième, Al-Rusl Al-Mujzi. Le Rusl valide. Et le Rusl complet. Et le Rusl valide. Vous voyez ? Al-Rusl Al-Kamil. Ma huwa ? Wa ma dhakarahu ? هنا المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن يغتسل فرجه أولا يغتسل فرجه القبول والدبور القبول والدبور كلاهما يدخلان في أو يدخل في الفرج ثم بعد الفرج ماذا؟ يتوضأ ثم يتوضأ ثم يحثي الماء على رأسه بعد الوضوء يحثي الماء على رأسه ويجزي عن ذلك الوسائل الحديثة من الصنابير وغيرها. Donc, le ghusl qui est kamil, c'est quoi? Pour résumer un peu ce qu'il dit le shir, c'est déjà tu commences par laver tes parties. Premièrement, tu laves tes parties. Et quand on dit les parties, c'est devant et derrière. D'accord? Les deux orifices. Ou les deux parties là. Puis, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le wudu. Tu fais el wudu. De la salat. Que tu fais pour prier. Puis, tu verses de l'eau sur ta tête. Tu verses de l'eau sur ta tête. Et pour ce faire, tu as le droit d'utiliser les outils que l'on a de nos jours. Hein, le pommeau de douche, le robinet, un tuyau, n'importe quoi. Tu as le droit de l'utiliser. Au lieu de prendre les trois hafanats, tu peux tout simplement verser avec dans la douche de l'eau sur ta tête. D'accord ?
Une seule fois.
De toute façon, on va faire comment pour, avec le pommeau, tu vois ça ? Donc tu verses assez d'eau jusqu'à ce que ça atteint les racines des cheveux. Sans rentrer dans le gaspillage, bien sûr. Sans rentrer dans le gaspillage. Hein?
Une petite tasse avec une bassine, tu fais
trois pas. Ouais, même tes mains. Tu le robinet, dans la douche ou la baignoire, tu le robinet. Tu peux faire le hafanat, il n'y a pas de souci. Mais tu as le droit d'utiliser ce que tu veux, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Donc, naam. Thumma, madam, بعد الرأس. Hein? نعم إذن يروي أو يروي رأسه ثم يعمم جسمه أو جسده بالماء على سائر جسده. Donc après avoir, on a dit quoi? Fait le wudu, on a versé de l'eau sur la tête. N'oubliez pas, il faut aussi yarawir ras, c'est-à-dire rentrer les doigts, pour ceux qui ont des cheveux longs, rentrer les doigts dans les cheveux pour que ce l'eau atteigne la racine. Ça, c'est obligatoire, les frères. Ça, c'est obligatoire.
C'est pour les femmes ?
Hein ?
C'est pour les femmes ?
Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas pour les femmes ? Quand tu parles de celles qui ont des chignons et tout ? Alhamdoulilah. Donc, celles qui ont des chignons dans les cheveux, elles ne sont pas obligées de le défaire pour le rousse. D'accord ? Ça, ça fait partie des facilitations d'Allah Azza wa Jal pour nous et pour les femmes. Mais, si elle sait que, des fois, le chignon, il est tellement serré, il est tellement collé au crâne, elle sait que l'eau ne va pas atteindre la racine à l'endroit du chignon. Dans ce cas-là, elle est obligée de l'enlever. D'accord ? Mais si elle sait que sans le défaire, l'eau va atteindre la racine, elle peut ne pas le défaire.
Oui,
toute la tête, frère.
Toute la tête, la racine.
Toute la tête. Toute la tête. لا كلاهما في الحيض والجناب كذلك نعم هذا هو الراجح هذا هو الراجح donc pareil que ce soit pour le حيض les menstrues ou pour le جناب
là-bas
on parle de bien sûr donc les poils c'est pas que les cheveux hein. D'accord donc lorsque tu as fait la tête et qu'après donc tu vas verser de l'eau sur le reste du corps ça veut dire quoi le reste du corps ça veut dire que tout les endroits doivent être touchés par l'eau. L'eau doit couler dessus. L'eau doit couler dessus. Donc si tu sais que donc, ta barbe, normalement ta barbe, tu vas le faire pendant tes ablutions. D'accord ? Mais si tu n'as pas fait tes ablutions, tu dois faire en sorte que l'eau pénètre jusqu'à la racine de ta barbe. T'as vu ? Donc on en est où ?
Non,
je n'ai
pas fini. Le chignon, ça ne rentre pas dans le hadith de celle qui a la bosse de chameau.
La bosse de chameau.
Oui, il y a bien des coiffures.
Non, les petits chignons comme ça, normaux, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Là, ce hadith, Yanni, c'est vraiment celles qui ont des tu vois, des gros trucs sur la tête et qui ça peut rentrer dans la ressemblance des kofars, etc. Donc les kafirats, c'est connu, des fois, ils ont des coupes vraiment bizarres. Mais le fait de juste d'attacher ses cheveux comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que ça ne rentre pas dans la ressemblance, kafirat. Thumma yu'amim badana. Na'am bilma, hada qulna. Thumma yaghsilu rijlayhi fi makanin akhar. Wa qulna idha kana hunaka maslaha. Idha kana hunaka haja. مثلا إذا خشي تلوثهما بالتراب ونحوي أو أراد تنظيفهما من الماء المستعمل مثلا لأنهما آخر ما يقع عليه الماء et à la fin donc il lave ses deux pieds et s'il y a un besoin qui est là qui est présent il le fait à un autre endroit Parmi ses besoins, par exemple, s'il a peur de salir ses pieds avec de la terre ou autre. D'accord ? Ou alors, s'il veut les nettoyer parce qu'il sait que ses pieds ont été touchés par l'eau qui a été utilisée pour se nettoyer. Exemple, il s'est nettoyé un endroit où il n'y avait pas d'évacuation d'eau. D'accord ? Il sait que l'eau n'a pas été, que ses pieds n'ont pas été nettoyés de cette eau-là. Dans ce cas-là, il va changer d'endroit, il va s'éloigner un peu. Il va laver ses pieds. Parce que ses pieds, c'est la dernière chose qui vont être touchées par l'eau dans le rousse. C'est les pieds qui sont les dernières choses qui ont été touchées. Donc forcément, Yanni, s'il a ce besoin-là de le faire, il s'éloigne et il lave ses pieds. Et de nos jours, encore une fois, Yanni, toute cette eau-là qui a été utilisée, elle est évacuée. Donc il n'y a plus rien qui reste en fait sur les pieds. Donc, il n'y a pas de besoin vraiment à le faire. Mais tu peux le faire si tu veux. Ce n'est pas interdit. Tu peux le faire. Donc, il y a trois façons ici donc, par rapport aux pieds. Soit tu les fais dans le wudu, tu ne les fais pas à la fin. Soit tu ne les fais pas dans le wudu et tu les fais à la fin. Ou soit tu le fais dans le wudu et à la fin. D'accord ? Les trois sont possibles, alhamdoulilah. Et ont été rapportés dans les hadiths. C'est bon, les frères ? Nourdin.
Après les cheveux, il
n'y
avait pas une histoire de côté droit.
Non, on va parler, Shalma. Non. اختصاراً لما قلنا في الغسل ذكر بعض العلماء أن الغسل الكامل يشمل 10 أشياء. وأنصحكم بكتابتها الغسل الكامل يشمل 10 أشياء الأول النية لا بد من نية أن تنوي الغسل من الجنابة. تنوي يعني رفع الحدث الأكبر مثلا. النية. الثاني التسمية. أن تقول بسم الله. مع أنها مستحبة. على الراجح مستحبة. لكن يستحب أن تقول بسم الله. الثالث بعد التسمية غسل الفرج. غسل الفرج. الرابع دلك يديه. دلك يديه بعد غسل الفرج. الخامس غسل ما لوثه إذا كان على فخذيه مثلا شيء من المني ونحوه. هذا هو الخامس. السادس الوضوء الكامل. الوضوء الكامل. السابع السابع تروية شعر الرأس. تروية شعر الرأس. الثامن تعميم البدن بالماء. التاسع التيامن. التيامن أن تبدأ بشقك الأيمن ثم الأيسر. والعاشر غسل القدمين في مكان آخر. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu par rapport aux deux hadiths, par rapport à ce qu'il a dit le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, certains ulama, ils ont résumé un peu tout ça et ils ont dit que Al-Rusl Al-Kamil contient 10 choses. La première, l'intention. Innama al-a'mal bil-niyyah. Donc l'intention, elle est importante. Celui qui a l'intention juste de se refroidir ou de se nettoyer, là, il faut qu'il mette l'intention d'enlever son état de janab. Deuxièmement, at-tasmiya, le fait de dire bismillah. D'accord ? Donc là, les choses que l'on cite ici, ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, ton rousse n'est pas valide. Ça, c'est pour faire que le rousse soit vraiment bien, complet. Parce que la majorité des ulama disent que, notamment le bismillah, la basmallah, elle n'est pas obligatoire. Elle est recommandée. Elle n'est pas obligatoire. Contrairement à le wudu, on avait le wudu, lui, par contre, selon l'avis correct, c'est que le basmallah, elle est obligatoire. Pour celui qui s'en souvient, celui qui a oublié, alhamdoulilah, son wudu, il est valide.
Mais l'intention est obligatoire.
Bien sûr. L'intention, elle est obligatoire. L'intention d'enlever al-janaba. Eh oui. De toute façon, tu as forcément une intention. Tu peux pas, tu fais jamais un acte sans qu'il y ait une intention derrière. C'est pas possible que tu n'aies pas d'intention. C'est impossible en fait. C'est impossible. Même si tu te forces, tu n'arriveras pas à faire une chose sans intention, à part si tu as perdu la raison. C'est lui qui est fou là, bien sûr. Non. Non, al-basmala mustahabba fi naz'i al-thiyab. Quand tu te déshabilles, ça c'est une sunna. Quand tu enlèves tes vêtements, tu dis bismillah, c'est une sunna. Mais même après, ensuite, avant de commencer al-ghusl, tu dis bismillah. Tu dis bismillah. Bien sûr. Même si tu es dans la salle de bain, tu dis bismillah. Dans la salle de bain où il n'y a pas de toilette, tu as le droit de dire bismillah. D'accord ? Tu as le droit de dire bismillah. S'il n'y a pas de toilette, tu dis bismillah. Même si tu n'es pas habillé, tu dis bismillah. D'accord ? Donc ça fait deux. Troisième chose, le lavage des parties. Rousse el farj. Et on a vu qu'il est parti devant, derrière. D'accord ?
Le lavage des mains avant de partir, c'est pas le fond là.
Le lavage des mains ? Si, ça a été cité, je crois. Ça a été cité. Non. Et ouais. Elle a dit Aïcha. Elle a dit Yabda fayar silu yadei. Yabda fayar silu yadei. D'accord? Ça, c'est recommandé si tu sais que tes mains elles ont été touchées. Tu vois? Si tu sais que tes mains sont propres, alhamdoulilah. 4. Quatrième chose, le fait de frotter ses mains contre le mur ou autre chose. Hein. Ça peut être aussi un produit qui va enlever ce que tu as sur les mains. Parce que vu que tu as essuyé tes parties, il se peut que tu aies probablement des choses sur les mains. Ben, tu peux prendre du savon, par exemple, et enlever ces choses-là avec du savon. D'accord? Donc, frotter ses mains après avoir lavé ses parties. Combien là?
Celui-là, quatre.
Celui-là, c'était le quatrième.
Oui.
Cinquième. Donc, hein? On passe au cinquième. Cinquième, laver ce qu'il y a autour des parties. Sur tes cuisses, par exemple, tu as du liquide. Tu as du sperme ou autre sur tes jambes, sur tes cuisses. Tu laves ça. Après avoir lavé tes mains, tu enlèves ces choses. Sixièmement, el wudu, el kamel. Là, tu fais le wudu. Totalement, du début à la fin. Avec les pieds aussi. Septièmement, après le wudu, les cheveux. Tu laves ta tête jusqu'à ce que l'eau ait pénétré jusqu'à la racine des cheveux. Huitièmement, tu laves ton corps, le reste du corps. Le reste du corps. Et quand on dit le reste du corps, les frères, il faut faire attention aux parties. Il y en a qui sont un peu cachées. Les aisselles, derrière les genoux, le nombril. D'accord? Parce qu'à la base, le fait de passer sa main, ce n'est pas obligatoire. Quand tu fais le rousse. Toi, quand tu prends le pommeau de douche et que tu verses de l'eau comme ça sur ton bras, ça suffit. Tu n'as pas à passer ta main comme ça. C'est recommandé, mais ça suffit. Mais les parties où tu sais que l'eau ne peut pas atteindre sans que tu mettes ta main ou ton doigt, comme le nombril peut-être. Là, tu mets ton doigt à l'intérieur pour que l'eau ait atteint le nombril, l'intérieur. C'est comme pour la barbe. Si tu sais que ça ne va pas atteindre la racine de la barbe, tu mets ta main. Tu mets tes doigts. D'accord? Et tous les endroits, en fait, où la saleté a tendance à s'accumuler. Derrière les genoux, les aisselles et autres. D'accord? Donc le reste du corps, c'était le combien? 9. At-tayamun. At-tayamun, c'est un terme qui désigne le fait de commencer par le côté droit. Hadi sunna. Donc tu commences de préférence à laver le côté droit de ton corps. D'accord? Puis le côté gauche. Alhamdoulilah. Et dernièrement, donc, laver tes pieds à un autre endroit. Laver tes pieds à un autre endroit. Surtout s'il y a un besoin particulier de le faire. D'accord? Donc, du coup, tu auras lavé tes pieds deux fois ici. Pendant le wudu et à la fin. Alhamdoulilah. Est-ce que c'est bon, Erwan?
S'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire, parce qu'il n'y a pas de besoin, mais qu'il y avait un besoin à l'époque, mais nous on le fait quand même, on est récompensé pour ça.
Inch'Allah, oui. Inch'Allah, tu le fais avec l'intention de faire comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que lui, il avait ce besoin-là, mais pas nous.
Non, alhamdoulilah. Adha wa al-ghusl, al-kamil. Le ghusl al-kamil, complet, c'est celui-là. Tu vois? Après, non. Donc si tu le mets dans l'intention de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu sais que tes pieds sont propres, mais tu veux les relaver à la fin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. C'est bon, Ikhwan? Tu dois refaire el wudu. Donc tu finis le ghusl et après tu fais l'ouzou. Non, bonne question. Bonne question. Celui qui perd ses ablutions pendant le ghusl, le wengaz ou autre, où il a touché ses parties. On a dit que le fait de toucher ses parties avec sa main, ça a amené les ablutions. Ouais. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu finis le ghusl et après à la fin tu fais le wudu. D'accord? Mais s'il n'y a rien qui est venu annuler le wudu, alhamdoulilah, c'est bon. Tu as fini le ghusl, tu peux prier, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui a commencé son ghusl par les parties. On a dit que le fait de toucher ses parties avec sa main, ça annule le wudu. Mais on a dit que tu commences le ghusl en lavant tes parties. Comment on fait? Hein? Voilà. En fait, celui qui commence par ça. Si tu commences par ça, par laver tes parties, et après tu fais le ghusl, c'est bon. C'est bon, tu n'as pas à refaire le wudu. Tu n'as pas à refaire le wudu là. Tu dois refaire le wudu quand tu as perdu ou quand tu as été atteint par le hadith al-asqar pendant le ghusl. Pendant le ghusl, c'est-à-dire après avoir lavé tes parties. C'est bon? Vous avez compris le... Alhamdoulilah.
Celui qui se lave avec le savon et tout, il fait une douche en fait, avant de faire le ghusl. Les parties intimes et tout ça, ils sont plus. Et juste, il passe dessus.
Quoi?
Il passe dessus.
Deux.
Parce que tout à l'heure, je crois qu'on a dit qu'il fallait insister. Si on avait des.
Oui, s'il y a des substances, tout ça.
S'il n'y a rien.
Tu les enlèves? Non, s'il n'y a rien. Il suffit juste que l'eau est coulée dessus. Est coulée dessus. Tu vois? Non. Ça y est? C'est bon, les frères? Alhamdulillah. Thumma yaqul. Wal fardu min hada ghaslu jami'il badan. وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. Donc il dit là le fard, c'est-à-dire le ghusl obligatoire ou le ghusl valide, c'est quoi? C'est le lavage de tout le corps, le fait que tu es lavé, que l'eau est coulée sur tout le corps, et bien sûr est inclus dedans tous les poils, qu'il soit léger ou épais. Donc il faut bien sûr faire en sorte que l'eau ait pénétré jusqu'à la racine de tous les poils. Et également ne pas oublier, pour ceux qui veulent faire que le ghusl, yani juste laver le corps et c'est tout, de ne pas oublier quoi? Al-istinshar, quoi? Al-madmada. Pas qu'il lui de faire la bouche et le nez. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit celui qui plonge dans la mer, il a mis l'intention du ghusl, il dit bismillah, il plonge dans la mer, mais il n'a pas fait la bouche et le nez, son ghusl n'est pas valide. Son ghusl n'est pas valide. Parce que la bouche et le nez fait partie du visage. C'est bon ainsi?
T'as compris? On peut faire sans
wudu? On a cité, t'as vu, on a décrit. Elle est rousse, donc complet, d'accord, en détail. Puis là, on va parler de la deuxième façon de faire le rousse. Ça y est, on parle de la deuxième la façon, deuxième manière de le faire. La manière qu'on a dit mujzi, c'est-à-dire valide, mais sans faire toutes les sunnan qu'on a vues, sans faire tous ces détails-là, tu vois. Et il suffit pour ça juste de faire en sorte que l'eau ait coulé sur tout ton corps. Sans oublier, comme on a dit, les cheveux, l'intérieur jusqu'à la racine, et sans oublier aussi la bouche et le nez. Faire, comme pendant les ablutions, elle demande bada ou l'istinshaq. Rentrer l'eau dans la bouche, laver la bouche, la recracher, rentrer l'eau dans le nez et la faire ressortir.
T'as dit s'il plonge dans l'eau et qu'il ressort, mais qu'il n'a pas fait les deux, ils ne sont pas valides. Mais s'il le fait plus tard, s'il y pense, mais plus tard.
De là, c'est bon. C'est bon. Ouais, parce qu'on a dit que al-muwalat, la succession des lavages dans le ghusl n'est pas obligatoire. pas comme le wudu. Si tu le fais une demi-heure après, une fois que tu t'en es souvenu, alhamdoulilah, c'est bon.
Même si tu es sec.
Même si tu es sec. On fait barakallah. Même le tartib, l'ordre n'est pas obligatoire. Toi, tu veux commencer à laver tes pieds, puis tu fais les cheveux, puis le corps, puis les ablutions. C'est bon. Parce que l'ordre n'est pas obligatoire ici. D'accord ? Bien sûr, si tu veux avoir un maximum de récompenses, mais maintenant, tu fais comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ?
Je pense que on a vu, on a tout vu, inshallah. Donc, il dit ici, Ana'am, نختم بهذا أي أن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء وإيصال الماء إلى ما تحت شعر الخفيف والكثيف وإلى المغابن كداخل سرته وإبطيه وما تحت ركبتيه وغضاريف الأذنين وكذا يجب عليه المضمضة والاستنشاق فائدة يقول الشيخ فائدة إذا اغتسل بنية الوضوء إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان الغسل عن جنابة فإن كان غسله عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ولم يذكر وضوءا هنا لم يذكر الله عز وجل وضوءا في هذه الآية ومثل غسل الجنابة إذا اغتسلت المرأة عن حيض أو نفاس فإنه يجزئ عن الوضوء لأن غسلها عن حدث أما إذا اغتسل للتبرد أو لغسل مستحب كغسل الجمعة فإنه لا يجزئ لأن غسله ليس عن حدث نعم donc à la fin il dit le cheikh Suleiman حفظه الله تعالى ce qui est obligatoire Le minimum, on va dire, obligatoire dans le ghusl, c'est de laver tout le corps en entier. De faire que l'eau coule sur tout le corps en entier avec Naam, que l'eau coule. Et que l'eau parvienne à la racine de tous les poils. Les cheveux ou les autres poils. Qu'ils soient épais ou légers. Et également que l'eau atteigne el-marabin. El-marabin, les aisselles derrière les genoux. Tous les plis du corps ou les endroits où la saleté a tendance à rester et à s'accumuler. L'intérieur du nombril, dakhil surra. Les deux aisselles, derrière les genoux, radarif al-udhunayn. L'intérieur là, des oreilles, hein, les plis là, des oreilles. Quoi encore ? Naam. Donc si, dit ici, Et également, ne pas oublier, bien sûr, encore une fois, de laver, de faire al-madmada, comme pour al-wudu, et al-istinshaq, comme pour al-wudu. C'est bon, les frères? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi al-madmada ou al-istinshaq? C'est classe? Il dit, les chers, pour finir, la fa'ida, un enseignement important que l'on doit savoir, lorsque la personne fait, se lave et elle veut par cela yani juste enlever son état de hadath al-asghar al-hadath al-asghar c'est bon tout le monde sait c'est quoi le hadath al-asghar et elle n'est pas en état de hadath akbar elle n'est pas en état de janaba Elle n'est pas elle n'a pas ses menstrues et elle n'est pas morte. D'accord ? Vous dormez ou quoi ? Donc elle a juste perdu son état de ses ablutions. C'est tout. Donc elle, si elle fait le ghusl, mais elle ne fait pas le wudu durant son ghusl, na'am, Eh bien, cela ne suffira pas. Il faudra qu'elle fasse obligatoirement el-wudu. Sauf si elle était en état de janaba. Dans ce cas-là, oui. Ou de menstrue. Ou décédée.
quelqu'un qui fait que le ghusl sans faire le wudu, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas prier comme ça. Il faut qu'il fasse le wudu.
Voilà. Si tu n'étais pas en état de janaba.
Si oui, si on n'est pas en état de janaba et qu'on fait le ghusl, qu'on ne fait pas le wudu.
Ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses el wudu pour pouvoir prier. Ouais. Non. Oui, si tu fais le ghusl avec le wudu, mais dans ce cas-là, il a fait le wudu. Donc, il n'y a pas de...
Non, le ghusl sans wudu.
Voilà, lui, il parle du ghusl sans wudu. Le ghusl est mujzi, lui, parle. Alors, ghusl kamil, lui, il n'a aucun problème. C'est bon ? Non. Alors que si il est en état de janaba, dans ce cas-là, alhamdoulilah, il n'a pas besoin de faire le wudu. Dans ce cas-là, il fait juste le ghusl al-mujzi et c'est bon. D'accord ? Donc, celui qui est en état de janaba ou la femme qui a ses menstrues et qui ses menstrues se sont arrêtées, elle dit bismillah, elle met l'intention de le ghusl, elle plonge dans la mer, elle fait, elle m'a demandé ou l'istinchar, c'est bon. Ça suffit.
Il doit faire le wudu ?
Non, c'est celui qui a le
janaba. Non, janaba.
Sans janaba, tu dois faire le wudu.
Eh oui. C'est bon, les frères. Sûr ? Pas que je suis bouette. Allah, parce que Allah, Azzawajal, il dit par rapport à ceux justement qui étaient en état de janaba, qui sont en état de janaba, il leur a dit fattaharu. Il leur a dit purifiez-vous. Il leur a pas dit faites le wudu. Il leur a dit purifiez-vous, faites le rousse, c'est tout. D'accord ? Non. Donc également la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, eh bien il lui suffit de faire el rosl el mujzi et cela est suffisant. Pourquoi? Parce que c'est un rosl qui permet d'enlever un état de hadath, qui est donc l'état de hadath akbar, les menstrues, les lochis, el janaba. En fait, dites-vous, c'est simple. Tout rosl obligatoire suffit. Tu n'es pas obligé de faire le wudu. Tout rousse obligatoire. Alors que le rousse qui est facultatif, comme pour le Jumu'ah, etc., dans ce cas-là, tu es obligé de faire le wudu. D'accord ? Si tu veux un moyen pour te rappeler. Donc celui qui se lave pour se rafraîchir, qui se lave pour le Jumu'ah, dans ce cas-là, lui, il est obligé de faire le wudu. Il est obligé de faire le wudu. Car il n'a pas de... à travers ce rousse, il n'a rien enlevé comme état, en fait. Il s'est juste refroidi ou il a fait juste une sunna qui est le fait de se laver pour salat al-jumu'ah. Ouais. Les 10 ? Ah non, le mujzi ? Les conditions ? Al-wajib, l'obligation dans le mujzi, que l'eau est coulée sur tout ton corps. Al-madmada ou l'istinchar, et tu fais en sorte que l'eau pénètre de partout, dans les cheveux, dans les poils, jusqu'à la racine, les endroits que l'eau tu sais que ne peut pas atteindre, tu passes ta main, etc. D'accord ?
C'est pour le mot ici qu'il utilisait un sac. Parce qu'il ne peut pas pour le cannabis. Yeah. Pour poignée.
Non.
Avec une poignée.
Après, un sac, c'est quand même un sac. Un sac, c'est quand même un sac. Ouais, c'est quatre poignées. C'est quatre poignées.
Une poignée, il finissait tout le reste.
C'est pour ça que. Ouais, mais c'est pour ça, regarde. Ça, c'est un argument qu'ont utilisé certains ulama pour dire qu'il est obligatoire de passer la main. Parce qu'ils disent que sans passer la main, tu ne peux pas utiliser un ça juste en faisant couler. Il dit donc forcément, le prophète, il a passé sa main. Mais il y en a un radia, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et il n'y a rien qui empêcherait que. Le ça, en tout cas, le ça concerne le rousse et le mujzi. Concerne le rousse et le mujzi. Allahu a'lam.
Hmm.
إذا كنت يعني على حدث أصغر وتريد أن تغتسل لصلاة الجمعة فعليك أن تتوضأ في هذا الغسل، لا بد أن تتوضأ. أي نعم نعم، وإذا الغسل الكامل لا لا تتوضأ في الداخل الغسل الحمد لله. لا نتكلم عن الذين يغتسل غسلا مجزئا، سي بون اخي داكور. دونك celui qui a fait le ghusl complet le kamil, il a fait le wudu forcément. Donc lui, alhamdoulillah, dans tous les cas, il a, c'est bon pour lui. Là, on parle de celui qui a fait, qui veut juste faire le ghusl, yani sans le wudu. D'accord ? Le mujzi.
On fait deux intentions, le mujzi. Dans le ghusl, on fait le ghusl du vendredi et le wudu.
Ah, bien sûr. Il faut que tu mettes l'intention de le wudu.
On fait les deux intentions en même temps.
Oui, l'intention de le wudu et l'intention de le jumu'ah. Alhamdoulillah. Non, tu ne fais pas deux ghusl. Tu fais un seul ghusl avec les deux intentions.
Si par exemple, j'ai connu que c'est sunnah d'avoir rapport au matin, et je suis en Genève, et que je veux faire le ghusl de Jumu'ah, ça ne suffit pas, il faut que je refasse quand même le wudu.
Non, ça suffit là. Ça suffit parce que tu as un état de.
Que le ghusl sans le...
C'est un ghusl qui est obligatoire là pour toi.
Mais c'est le rousse pour me purifier de Djanaba. Mais ouais. Le rousse pour le...
Alhamdoulilah, les deux ils rentrent. Toi, tu mets l'intention d'enlever ton état de Djanaba. Et en même temps, ben, tu te laves pour le Jumu'ah. Il n'y a aucun problème.
Je peux mettre les deux intentions dans...
Bien sûr, alhamdoulilah. Hein? Tu mets les deux intentions. Ah, tu fais deux rousses.
Oui, je suis revenu, il a dit ça, c'est pour ça que...
Subhanallah.
Parce que Cheikh Al-Bani voit le rousse du Jumu'ah.
Ah, d'accord. Non, moi, nous, on a pris l'avis que... Enfin, on a pris l'avis. Et chacun, il regarde après. Mais que le ghusl de Jumu'ah, il est mustahab. Il est recommandé. Donc, toi, tu fais ton ghusl de Janaba. D'accord. C'est bon, écran. Alhamdulillah. On t'a fait bien le cadre. Wallahu a'la wa'alam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Shadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.